À voix nue. Cette semaine, Belindola rencontre Jean-Paul Cluzel. Ce soir, et la culture dans tout ça.
Bonsoir Jean-Paul Cluzel.
Bonsoir Belindola.
Pour ce dernier épisode d'À voix nue avec vous, nous allons évoquer votre goût pour la culture et votre conception de la culture. Vous dites que toutes les formes d'art ne se valent pas, qu'il y a d'un côté une culture populaire, on pourrait la qualifier ainsi, et de l'autre, l'art. Expliquez-nous ce distinguo que vous faites.
Je crois que c'est un distinguo nécessaire parce que, à la fois, toutes les expressions culturelles sont nécessaires. La chanson, y compris la chanson populaire, dans toutes ses formes, y compris celle qui, aujourd'hui, mêle la poésie, en tout cas une forme de prosodie et le rythme, comme le rap. Et j'évoquais hier Tristan Isolde, qui est mon opéra fétiche, et la mort d'Isolde, dont Nietzsche disait que une fois entendu la mort d'Isolde, tout le reste de la musique occidentale paraissait fade. Tout ça appartient au champ de la créativité humaine et distingue évidemment l'homme du règne animal. Mais en même temps, je crois dangereux parce que certaines formes de culture, la culture populaire en particulier, vit très largement sans soutien des pouvoirs publics, sans subvention, sans aide fiscale. Parce que tout simplement, le public va vers elle et donc ils achètent des billets de concert, ils achètent des disques, ils prennent des abonnements de streaming. Enfin, il y a toute une série de recettes économiques qui font que ces formes de culture populaire vivent. En revanche, d'autres formes de culture exigent d'y avoir été formées au préalable. Elles sont difficiles, exigeantes, et donc elles ne peuvent pas avoir un large public. Comme souvent, elles sont également coûteuses à produire. Il est clair que s'il n'y a pas une aide de l'État ou du mécénat des particuliers, ce qui revient au même, parce que le mécénat des particuliers, chacun sait maintenant, après Notre-Dame, qu'il est défiscalisé, donc c'est bien une aide financière de l'État. S'il n'y a pas des subventions des collectivités locales, on est en plein dans les municipales, ce serait intéressant de savoir ce que les différents candidats pensent de la culture à l'échelon local. Donc, il y a des formes de culture qui méritent d'être défendues parce que elles n'ont pas d'équilibre économique en elles-mêmes. Elles ne peuvent exister que si elles reçoivent un soutien public ou particulier en dehors du marché. Si on voulait résumer, la culture populaire, c'est une culture qui est désirée par le plus grand nombre, y compris par l'élite. Beaucoup de chanteurs populaires sont évidemment très désirés par tout le monde. C'est d'ailleurs ça qui est formidable dans la chanson populaire. C'est qu'elle unit toute une nation, quels que soient les degrés. Mais il y en a d'autres formes de culture qui, pour pouvoir s'exprimer, doivent être financées en dehors du marché. Et je trouve qu'il y a un risque de ne pas défendre assez cette forme de culture. Cette même forme de culture fait qu'il est nécessaire qu'il y ait des chaînes comme France Musique, principalement dédiées à ce qu'on appelle la musique classique ou la musique savante, ou à des formes très contemporaines, comme le jazz, mais qui sont elles aussi relativement difficiles. Donc, il faut qu'il y ait des canaux spécifiques, donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des théâtres, il faut qu'il y ait des chaînes de radio, il faut qu'il y ait des subventions, il faut qu'il y ait un droit de la propriété intellectuelle spécifique pour ces formes d'art. Donc, on pourrait se dire, excusez-moi, pourquoi vouloir que ces formes d'art, si elles doivent être subventionnées par l'argent de tout le monde, y compris par ceux qui ne vont jamais les consommer, pourquoi doivent-elles exister? parce que tous ceux qui ont la chance d'avoir accédé à cette forme d'art sont intimement persuadés qu'elle permet une réalisation de l'être incomparable. Ça comme corollaire, que cette forme d'art, non seulement il faut l'aider financièrement pour qu'elle se manifeste, mais il faut aider pour que des publics plus larges viennent progressivement. Et que non seulement il faut aider à ce que des publics plus larges, mais que ce public plus large soit formé. D'où l'importance, encore une fois, de l'enseignement d'une certaine forme de culture exigeante à l'école et au lycée, la nécessité d'un audiovisuel public exigeant, la nécessité de liens entre le système scolaire et la culture. Je pense que si nous abandonnions la nécessité de jouer Wagner avec le plus haut degré de perfection et en même temps la nécessité qu'il faudrait qu'il y ait plus de gens qui puissent aimer Wagner sous une forme ou sur une autre, eh bien il me semble qu'on affadirait, on abaisserait le niveau intellectuel général. Et je ne connais pas une personne venue de milieux défavorisés qui, une fois qu'on a lui a permis d'accéder à cela, n'en soit pas émerveillé. J'évoquais hier cet homme qui était conducteur de Ben Ardur. Il se trouvait que quand nous étions ensemble, un jour j'avais passé Maria Callas. Ben, on ne pouvait pas être ensemble sans qu'il n'y ait pas un autre disque de Maria Callas. Voilà. Et je n'ai évidemment pas des exemples comme lui à multiplier, mais si, j'en ai un autre. Un jour, pour les besoins d'un déménagement, je loue, vous savez, ces pièces où l'on peut, qu'on loue dans des entrepôts, simplement pour y ranger des livres, des meubles. J'étais donc au Kremlin-Bicêtre. Et au Kremlin-Bicêtre, c'était là, donc la ville où je suis né. Et un homme, français d'origine maghrébine, était là et dit à ses copains, « Attendez, celui-là, c'est quelqu'un de bien, il est né au Kremlin-Bicêtre. » Parce qu'il m'avait vu dans une émission de Canal+, où j'avais parlé du Kremlin-Bicêtre. Eh bien, il m'a dit que, comme beaucoup de personnes comme lui, il n'avait pas eu toutes les chances au départ. Et donc, il m'a demandé si je pouvais l'aider à évoluer lui-même. C'est un type qui en veut, c'est formidable. Alors, je n'arrive pas à l'aider autant que je le voudrais. Mais là, par exemple, on est en train de monter une action où, avec un groupe, tout petit groupe de jeunes du Kremlin-Bicêtre, ils vont être 6 ou 7, on va aller voir l'exposition à l'Institut du Monde Arabe, qui est consacrée, vous savez, à ce site archéologique qu'on a trouvé en Arabie Saoudite, qui va être l'occasion à la fois de montrer ce que faisaient les ancêtres des Arabes et combien ils étaient polythéistes et pas monothéistes à l'époque. Vous voyez, donc on peut toujours faire, mais il est certain que ça demande du temps, de la volonté et donc de l'argent. De l'argent. Donc la culture et le système éducatif, on n'a rien sans rien.
Vous n'avez jamais pensé à être ministre de la Culture ?
Écoutez, c'est une tâche si ingrate que si on me l'avait proposée, ben, j'aurais sans doute dit oui, évidemment. Bon, je trouve qu'on ne me l'a pas proposée, donc c'était très bien comme ça. Mais vous savez...
C'est un projet, ce que vous racontez. C'est,
oui,
c'est une vision et ça peut être un projet...
Je dirais que les ministres de la Culture idéaux, et on a forcément en tête André Malraux et Jack Lang, ils avaient le général de Gaulle et François Mitterrand. C'était dans les deux cas des hommes d'ailleurs exceptionnels qui leur faisaient une totale confiance. Et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, parce que nous avons des présidents de la République, certes François Mitterrand était très cultivé, mais il laissait faire Jack Lang. Certes, il choisissait à sa place, je l'ai dit il y a 2 jours, le directeur de l'opéra. Bon, mais tout de même, la politique culturelle de la France sous François Mitterrand, c'est Jack Lang. Depuis lors, je crains que les chefs d'État successifs ont considéré qu'ils étaient leur propre ministre de la culture. Donc, j'aurais sans doute accepté, parce que un serviteur de l'État accepte ce que lui demande un pouvoir démocratiquement élu, mais je suis pas sûr que j'aurais fait mieux que les excellents ministres qui se succèdent, dont l'actuel.
Ce rapport à la culture, enfin du pouvoir à la culture, c'est la fameuse spécificité française ?
Oui, elle est française, elle est redevenue française, avec les deux couples dont je viens de parler, De Gaulle-Malraux et Mitterrand-Jack Lang, parce que la culture et le monarque, c'est quelque chose de tout l'Ancien Régime. Si l'on pense à la Prusse de Frédéric le Grand, si l'on pense à l'époque de la reine Anne et des premiers monarques de Hanovre en Grande-Bretagne, Handel, Harry, enfin, avant 1789, et dans une bonne partie du 19e siècle, c'est le monarque et l'aristocratie qui font la culture, parce que pour la même raison que je vais lancer tout à l'heure, à savoir qu'il faut de l'argent en dehors du marché. Donc, voilà, on a besoin d'un protecteur, ce qu'on appellerait aujourd'hui un mécène. Donc, à l'époque, l'État, c'était des monarques et c'était l'aristocratie, donc, qui subventionnait. On est passé dans un système différent. Et ce qui était particulier avec la France, la création du ministère des Affaires culturelles par De Gaulle et André Malraux, c'est de remettre effectivement le domaine de la culture comme une place éminente. Il ne faut pas non plus oublier que non seulement De Gaulle crée le ministère des Affaires culturelles pour André Malraux, mais qu'il met André Malraux ministre d'État et en numéro 2 du gouvernement après le Premier ministre. C'est-à-dire à quel point, dans la conception qu'elle avait... Alors, je pense que De Gaulle aimait aussi Malraux parce qu'il avait fait la guerre d'Espagne du côté des Républicains, parce qu'il avait rejoint Londres, beaucoup de choses. Mais tout de même, le ministre d'État, ministre des Affaires culturelles, était numéro 2 dans la liste du gouvernement.
Mais c'est dire à quel point l'art est politique.
Non, combien l'art a besoin d'être aidé financièrement par l'État ? Excusez-moi de revenir à des choses basses. Non, parce que si l'art est politique...
C'est prêter beaucoup
c'est
crédit c'est le maître, aux politiques.
C'est le maître... Je n'aime pas l'expression « l'art est politique » parce que ça veut dire qu'on met l'art sous la coupe du politique. Qu'ensuite, l'art d'une époque exprime une vision politique... Évidemment, si on regarde la liberté guidant le peuple de Delacroix, bon, c'est un message politique. Émile Zola, c'est politique. Guernica, c'est politique. Et tout l'art conceptuel d'aujourd'hui, dans lequel vous avez souvent besoin d'une notice.
Pour, une explication de texte.
Une explication de texte. Il a renié complètement l'esthétique et la beauté au profit, n'est-ce pas, d'une vision politique. Oui, bien sûr. D'ailleurs, le prochain pavillon français à la Biennale de Venise va être confié à une artiste franco-algérienne qui vit à Londres. Et cela en soi-même est un message politique. Mais, encore une fois, il faut que la culture, l'art soit indépendant du politique. Et mais bien évidemment, toute forme d'art est une expression du politique.
Par votre activité professionnelle, vous avez été amené pendant plus de 25 ans à fréquenter des artistes. Vous vivez avec un artiste. Quelle expérience, quel bénéfice tirez-vous de cette proximité avec l'art que vous aimez tant, que vous respectez ? Cette proximité intime, en l'espèce.
Alors, bon, il se trouve que Nicolas n'est pas artiste. Il dirige, il est le manager d'un orchestre, qui n'est pas exactement la même chose. J'ai vécu un autre moment avec un architecte, et la table que vous voyez là a été dessinée par lui. Donc c'était un petit peu différent. Mais, et puis c'est vrai que j'en ai fréquenté beaucoup.
C'est toujours le cas ? Ils font
oui,
partie
parce
de votre
que,
vie ?
Parce que j'ai gardé des amitiés avec certains galeristes. Après les concerts, il y a souvent un dîner hein, avec le chef d'orchestre ou le soliste. Et puis, j'ai une amie, une libraire du quartier, Colette Kerber, qui connaît beaucoup d'écrivains, et à travers elle, j'ai une sorte de conversation indirecte avec ces écrivains. Disons que je préfère l'œuvre des artistes au dialogue avec eux, parce qu'il m'a semblé que très souvent, les artistes ont du mal à parler de leurs œuvres. Évidemment, un chef d'orchestre peut parler de l'œuvre qu'il a dirigée. Mais par exemple, les meilleurs solistes, souvent, ne sont pas ceux qui parlent le mieux. Hein, souvent, c'est un critique qui les fait parler de leur œuvre. Mais, donc, je préfère, si vous voulez, ce que j'ai acquis de la fréquentation des artistes, c'est plutôt une volonté d'être éponge, de m'imbiber de ce que l'œuvre artistique peut donner. Faire tomber les frontières pour laisser passer les ondes hein, qui viennent vers vous et être bien malaxé par l'œuvre artistique. Et essayer de faire tomber tous les a priori vis-à-vis d'une œuvre. Ou à l'inverse, à chaque fois qu'on entend, par exemple, en musique ou qu'on lit une œuvre deuxième ou troisième fois, à la fois laisser tomber les remparts et en même temps garder certains repères qu'on a eus des fréquentations artistiques précédentes pour enrichir l'expérience. À chaque fois, on passe une espèce de petite étape et donc je préfère la fréquentation des œuvres à ceux qui les créent, mais en revanche, évidemment, parler avec eux, boire un verre, manger un bon repas, parler politique, savoir ce que les artistes pensent de la politique, oui, ça m'intéresse.
Quel temps consacrez-vous à l'art dans votre nouvelle vie ?
Bon, alors, il se trouve que je donne un cours à Sciences Po de politique culturelle comparée. Quand le patron de Sciences Po m'a proposé le cours, il m'a dit, de toute façon, tu viens les mains dans les poches, tu sais tout. Ça m'a donné, et ça me donne 4 ans encore après, un énorme travail. Donc, je lis plus. J'ai du temps de libre. Vous comprenez, quand vous êtes à la tête d'une institution de médias ou culturelle, vous êtes happé par la gestion des choses. Et puis, vous laissez, Dieu merci, aux producteurs, aux journalistes, aux musiciens, le soin de faire la substance culturelle, intellectuelle. Vous gérez les budgets, les conflits sociaux, les évolutions techniques. Bon. Aujourd'hui, à la retraite, eh bien, disons que l'ensemble des petites tâches que je dois faire me prennent peut-être 2 heures par jour. Donc tout le reste, ça me donne évidemment infiniment plus de temps pour lire les journaux, pour écouter de la musique,
dialogue
pour
des
lire des romans. Le dialogue des Carmélites, j'écoute rarement le dialogue des Carmélites parce que je pense que la scène finale, à savoir...
Mise en musique par Poulenc.
Oui, voilà. Donc le thème de la musique est sublime, c'est-à-dire qu'il y a les Carmélites qui chantent le Salve Regina, et elles gravissent l'échafaud. On entend la lame de l'échafaud, le couperet tomber, on entend le choc. Et puis, celles qui restent reprennent avec plus de force, mais on voit bien qu'il y en a de moins en moins. Ça finit par 3 sœurs, trois carmélites qui chantent, puis il n'y en a plus qu'une, et ça se termine. Donc, certes, c'est très très beau en disque, mais si la mise en scène est bien faite, comme c'était le cas il y a quelques années au Théâtre des Champs-Élysées, dans une mise en scène, je crois, d'Olivier Py, c'est encore mieux. Donc, je préfère...
On est vraiment sur de l'art exigeant, là. C'est pas la musique.
Cher Béline, si on n'utilise pas le temps qu'on a à la retraite pour faire une forme d'art qui demande un peu d'effort, en tout cas, après avoir reçu la vie que j'ai eue, je veux dire, j'ai eu une chance inouïe. Si je ne fais rien du temps que j'ai aujourd'hui pour justement essayer d'avoir une écoute encore plus aiguë d'œuvres sublimes de l'art, franchement, je ne serais pas reconnaissant à ce pays qui m'a donné tant de chance. Donc c'est pour ça que j'ai bien volontiers accepté ce cours à Sciences Po, pour essayer de redonner une toute petite partie. Mais je ne redonne qu'une toute petite partie, parce que la vérité est que ce qui est de plus absolu, soit dans l'art, soit dans le plaisir physique, c'est incommunicable. Ce que je viens de vous dire est peut-être une bonne description de la scène finale, et d'ailleurs médiocre description de la scène finale du dialogue des Carmélites, mais ce n'est pas l'émotion incroyable qui peut vous prendre tout entière quand vous êtes au Théâtre des Champs-Élysées avec de merveilleux chanteurs dans une mise en scène parfaite d'Olivier Py. Que puis-je vous dire d'autre ? Alors effectivement, il n'y a que 2000 personnes au Théâtre des Champs-Élysées. Mais je pense que si on a une vision un petit peu englobante de la société, ça vaut mieux qu'il y ait 2000 personnes qui expérimentent cela que pas du tout.
Quel plaisir, quel bénéfice, direz-vous, à transmettre à de jeunes étudiants à Sciences Po votre savoir, votre expérience. Vous dites vous-même que c'est éprouvant, notamment lorsqu'il s'agit de cours en anglais, que ça vous demande du travail, ça doit vous procurer du stress. Pourquoi le faites-vous ?
Écoutez, on l'avait vu il y a deux ou trois jours, j'ai énormément bénéficié de mes professeurs. Énormément. Je leur dois 50% de ma vie. Il est normal qu'aujourd'hui, j'essaye de me donner à fond pour des jeunes gens qui ont la gentillesse de s'inscrire à mon cours. Donc, quand après, il y en a un ou deux qui m'appellent, ou je vois, bon, par exemple, mon premier assistant, il est aujourd'hui chef de cabinet d'une éminente personne qui dirige une très grande chaîne de télévision. C'est formidable, ça me fait grand plaisir. Et voilà, j'essaie de leur transmettre, en particulier, j'essaie de leur transmettre deux choses. D'une part, que une culture exigeante a besoin d'être financée, donc et qu'une fois qu'elle est financée, il faut tout de même respecter les budgets qu'on vous a alloués. Ça, je leur apprends.
L'équilibre économique, ça.
L'équilibre économique, économique de la culture. Les chiffres sont les chiffres. Et la deuxième chose que j'essaie de leur apprendre, c'est qu'encore une fois, selon moi, si toutes les formes de culture sont bien une expression incomparable de ce qu'est l'homme, il y en a d'autres qui méritent d'être plus protégées, plus soutenues. Voilà. Et que certaines existent simplement parce que le plus grand nombre adhère à elles, et que d'autres ne survivent que par l'adhésion d'un petit nombre, mais qu'elles apportent globalement à l'humanité quelque chose. Personne de son 30 ans après la mort de Mozart ne nie aujourd'hui que Mozart a apporté quelque chose à l'humanité. Même les gens qui n'écoutent... Vous demandez à quelqu'un qui n'a jamais entendu Mozart, si vous dites le monde Mozart, eh bien, ça lui dira quelque chose et il a une espèce de respiration. Souvent, quand il m'arrive de prendre un taxi, je demande au chauffeur de taxi de mettre France Musique. Presque tous, je dis à 99%, me disent « Ah, c'est bien, monsieur, ah, c'est agréable. » Parce que l'évidence de la beauté de la musique classique, elle pulvérise.
L'évidence de la beauté tout court.
L'évidence de la beauté.
Alors, il y a quelques années, vous avez déclaré à un journaliste des Échos qu'une fois à la retraite, peut-être, reprendriez-vous le chemin de l'université pour étudier la théologie. Ah. Qu'en est-il de ce projet ? Jean-Paul Cluzel.
Alors, j'ai abandonné le projet parce que finalement, ma vie à la retraite est très très libre, très très heureuse. C'est sans doute... C'est dommage qu'il y a ce vieux dicton français qui dit « Si vieillesse pouvait, si jeunesse savait ». Alors, si j'avais tout le temps libre que j'ai aujourd'hui, et le corps et, disons, l'attractivité que j'avais avant, ce serait génial. Mais j'ai fait mes choix, il y a toute une série d'activités que je ne pratique plus, mais malgré tout, mes journées sont très bien occupées. Et pour aller à un cours de théologie, cela voudrait dire que j'abandonne d'autres activités, cela voudrait dire que la préoccupation sur la nature de Dieu, parce que la théologie c'est ça, hein, ça veut dire littéralement la connaissance, la science de Dieu, que ma préoccupation sur ce qu'est Dieu l'emporterait sur d'autres choses. Je ne sais pourquoi, mais je suis tout à fait conscient de ma mort, j'y pense absolument tous les jours. J'essaye de m'amadouer la mort, mais la nature de Dieu ne me préoccupe pas trop. Je suis né catholique, je mourrai catholique, c'est la religion de mes ancêtres. Elle est inhérente à moi, comme la couleur du ciel de Paris, les nuages de Paris, les marronniers.
Quand vous dites catholique, vous voulez dire que vous êtes croyant ? Ou vous êtes de culture ?
Ce serait vraiment extrêmement présomptueux de dire que Dieu n'existe pas. Il faut avoir le doute en tout. Il est tout à fait possible que Dieu existe, et c'est ce qu'a dit Pascal depuis longtemps. Hein. On ne voit pas ce que de croire en Dieu vous retire. Si jamais Dieu existe, peut-être vous sera-t-il reconnaissant d'avoir cru en lui.
Merci Jean-Paul Cluzel pour cette semaine passée ensemble. Merci pour le temps que vous nous avez accordé. Pour finir cette semaine passée ensemble, Jean-Paul, nous allons écouter une musique de votre choix.
Alors, c'est Souvenir de Florence, une pièce de Tchaïkovski que j'ai découverte récemment, qui est interprétée par le quatuor américain Emerson. Je peux ajouter quelque chose, peut-être ? Je voulais aussi vous dire aux auditeurs de France Culture et à France Culture, j'allais dire tout l'amour, toute la passion que j'ai pour cette chaîne et pour ses auditeurs.
Bonne soirée sur France Culture et à bientôt Jean-Paul Cluzel.
Fin de cette rencontre de Belindola avec Jean-Paul Cluzel. À voix nue, réalisation Vincent Deck, prise de son Arthur Dumont, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.